Parlons du bilan au Québec qui a été présenté, qui va être renouvelé cet après-midi, en fait ajusté. Mais on se retrouve donc avec 1339 cas confirmés. On a confirmé aussi un septième décès. Je vous dirais que quand on regarde les statistiques, ce sont les voyageurs ou les gens qui ont été en contact avec des voyageurs, et là on parle de plus en plus de contamination communautaire. À Montréal, c'est comme concentré beaucoup dans des arrondissements comme Côte-des-Neiges, Côte-Saint-Luc, Notre-Dame-de-Grâce. Je vais en parler avec le microbiologiste Carl Weiss. Docteur Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je regardais ça hier, là, puis j'ai entendu les explications là, sur les méthodes utilisées, sur le fait qu'on avait moins de tests au début, qu'on en fait plus maintenant. Mais 1339 cas, tu regardes ça, tu dis, on a la moitié des cas canadiens au Québec?
Bon, alors, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que je pense qu'au Québec, on a testé de meilleure façon globalement que dans certaines autres provinces, et là, il faut vraiment mettre les choses au clair. Les tests sont de plus en plus disponibles. C'est sûr qu'il y a eu à un moment donné une espèce de retard dans la sortie des tests, et donc on a eu une poussée pendant quelques jours qui résultait de tests qui avaient été, si vous voulez, mis dans la chaîne, mais qui n'avaient pas encore été sortis. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication pour Montréal surtout et les arrondissements que vous avez cités, c'est qu'il y a eu des événements communautaires qui ont fait exploser les cas dans ces quartiers-là. Donc, d'où l'importance de suivre ce qui a été dit par M. Legault, d'éviter absolument tout rassemblement communautaire, d'éviter des rassemblements où on pourrait avoir une transmission explosive. Donc, c'est ce qui explique en grande partie le nombre de cas de Montréal plus élevé que dans le reste de la province et spécifiquement dans les arrondissements que vous avez sortis. Donc, c'est pour des raisons qui sont épidémiologiquement connues et précises. Ceci étant dit, je vous dirais, il y a aussi le fait qu'on est passé d'une phase de transition de cas associés au voyage ou de contact avec des voyages, avec des cas qui sont maintenant beaucoup plus communautaires. Et donc, on va voir dans les deux prochaines semaines comment la transition au niveau communautaire va se faire. Avec toutes les mesures qui ont été mises en place au Québec, et il y en a beaucoup qui ont été faites de façon très intelligente, je dirais, et qui ont été faites précocement par rapport aux autres provinces, on va voir si l'impact de toutes ces mesures-là va se mesurer dans deux semaines et si notre transmission communautaire va être, disons, moins grave que ce qu'elle aurait pu être.
OK. J'allais vous dire, quand vous me dites ça, ça me laisse penser que si on a utilisé d'autres méthodes pour tester dans d'autres provinces, le portrait qu'on nous présente de, je sais pas, l'Ontario, l'Alberta est pas tout à fait conforme, qu'il y aurait donc beaucoup plus de cas potentiellement, et que le Québec a utilisé une méthode plus juste pour avoir un portrait plus juste.
Je vous dirais qu'on a dépisté plus au Québec qu'en Ontario. Je pense qu'au Québec, on a eu un dépistage plus lâche que ce qu'on a fait ailleurs. On a aussi, dans certains coins de Montréal, entre autres, dépisté beaucoup de gens qui étaient malades parce qu'il était évident qu'il y avait une relation épidémiologique avec d'autres gens malades, alors que ça a probablement eu un impact sur la courbe. Donc, si on se réfère au Québec en termes populationnels, disons le nombre de cas positifs par 1000 de population, c'est sûr qu'on est plus élevé qu'en Ontario, on est plus élevé qu'en Alberta, mais je pense qu'il y a un retard sur le diagnostic au niveau de certaines autres provinces, entre autres au niveau de l'Ontario. Moi, je ne vois pas la situation du Québec comme étant négative du tout. Je pense que le reflet qu'on a actuellement, c'est au contraire un reflet plus clair de ce qui se passe dans la communauté. Il ne faut pas voir ça comme étant négatif.
Mais je ne vois pas ça négatif, mais c'est comme ce que vous me dites dans le fond, c'est qu'on a testé les gens qu'on avait raison de tester parce qu'on était à peu près convaincu qu'ils représentaient un potentiel très élevé, donc d'être positif.
Tout à fait, c'est ça. Vous avez bien résumé ça.
Parfait. L'autre chose, quand vous regardez actuellement ce qui se passe, le nombre de cas, est-ce qu'on est toujours au début de la pandémie pour Montréal, en fait pour le Québec, et qu'on est encore assez loin de la période qui est la plus intense, qu'on appelle le pic?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, si on se fie à ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est sûr que tout simplement, chronologiquement, on ne peut pas être dans notre pic, là. Et d'ailleurs, on l'a vu, vous savez, moi, pratico-pratique, j'étais de garde la semaine dernière dans mon hôpital, qui est un hôpital désigné. On a eu la première vague de la première vague et on a vu que le nombre de cas a augmenté considérablement par rapport à la semaine précédente. Et cette semaine, le nombre de cas augmente par rapport à la semaine dernière. Alors, oui, on est au début de la vague, c'est sûr. Je pense qu'on sera plus capable de vous dire ce qui se passera et on aura une meilleure idée dans 3 semaines à peu près. Et j'aimerais souligner quelque chose qui est important de dire. C'est une maladie où les gens sont malades longtemps. Ce que ça veut dire, que ça, c'est le clinicien qui parle. C'est que les gens ont besoin de support d'oxygène, de support de ventilation pendant de nombreux jours, plus long que ce qu'on voit habituellement dans d'autres maladies similaires. Et ça, nos collègues en Europe et en Asie nous l'avaient dit auparavant, mais c'est ce qu'on remarque maintenant. Donc, ce que ça veut dire, qu'on, malheureusement, des fois, on est obligé de garder les gens plus longtemps qu'on aimerait parce que on n'est pas capable de les sortir sans oxygène.
Quand vous regardez le nombre de gens hospitalisés, aux soins intensifs par rapport au nombre de personnes qui ont été testées, qu'est-ce que ça vous donne comme information?
Ben, ça nous donne à peu près ce qu'on avait prévu jusqu'à un certain point. On peut dire qu'il y a peut-être moins d'hospitalisés en pourcentage, mais des fois, c'est difficile aussi d'extrapoler. Il faut aussi dire qu'on essaie de se forcer à ne pas hospitaliser les gens. Vous savez, ça dépend beaucoup l'hospitalisation d'un pays à l'autre. En Europe, les médecins ont tendance à hospitaliser beaucoup plus qu'en Amérique du Nord de façon naturelle parce que le nombre de lits par 1000 habitants est beaucoup plus élevé en Europe qu'il l'est en Amérique du Nord. On a tendance ici à être plus conservateurs dans nos critères d'hospitalisation. Donc, beaucoup de gens ici qui sont quand même bien, mais on ne va jamais mettre la sécurité des patients en danger. Ça, c'est un non absolu. Mais des fois, c'est même mieux pour les patients et ils sont contents de retourner chez eux dans leur environnement à la maison, d'être dans ce qu'ils connaissent. C'est plus facile. Et s'ils n'ont pas besoin de support d'oxygène ou quoi que ce soit, ils peuvent être suivis à distance et ils sont dans un environnement plus agréable. Donc, c'est un peu ce qu'on avait prévu, je vous dirais, à date.
OK. Mais là, j'entends des auteurs dire, si quelqu'un est testé positif, qu'on le retourne chez lui, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va respecter les consignes? Comment les autres membres de la famille vont évoluer à travers ça? On n'est pas mieux, peut-être pas à l'hôpital, mais les mettre en confinement ailleurs?
Ben, écoutez, là, je pense que les Québécois, dans leur immense majorité, sont des gens qui vont garder une éthique et qui vont faire attention de ne pas sortir. Je pense qu'à date, honnêtement, dans les patients qu'on a renvoyés à la maison, j'ai jamais vu ce problème. Ça se peut que ça arrive et ça va arriver de façon exceptionnelle, mais moi, je pense qu'on peut faire confiance à la population québécoise. Je pense pas que ce soit un problème. Puis pour les gens, souvent, les gens avec qui ils vivent, souvent, ces gens-là ont déjà été en contact avec eux. Alors, on s'aperçoit que très souvent, puis je vous le dis aussi, il y a probablement plus de cas parce que j'ai des patients, je leur dis, bon, vous êtes malade, puis ils me disent, oui, ma conjointe est malade, mon conjoint est malade, mais quand vous leur parlez, ils sont pas très malades. Donc, ils sont probablement infectés, pas très malades, et on les teste pas, ces gens-là. Donc, ça rentre pas dans les statistiques, mais ils sont dans les statistiques.
OK. 2 ou 3 questions techniques, là. On voit l'explosion de cas aux États-Unis, particulièrement à New York. On va reparler tantôt. Il y a beaucoup de camionneurs qui font justement les liaisons vers l'État de New York, vers la ville de New York. Ils sont inquiets, puis leur rôle est essentiel pour maintenir, entre autres, la chaîne alimentaire. Qu'est-ce que vous dites à ces camionneurs quand ils reviennent ici? Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Je pense que tant qu'ils gardent leur distanciation sociale, ils font attention lorsqu'ils de bien se laver les mains, d'éviter de s'approcher trop des gens. Et puis souvent, ils sont seuls dans leur camion. Donc, à partir du moment où ils vont faire... moi, justement, j'ai un patient qui rentre dans votre définition, puis qui, justement, va chercher, il me dit, sa marchandise aux États-Unis, s'assure qu'il reste en contact avec très peu de gens, ne s'arrête le minimum qu'il peut, et puis il est tout seul dans son camion. Donc, je vous dirais jusqu'à un certain point, le risque est pas très, très élevé si les gens font attention à leur environnement. Donc, honnêtement, je ne pense pas que c'est un risque accru. Là.
Bon, l'autre question, M. Legault parlait hier de faire attention, de ne pas contaminer la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris. On ne pensait pas que c'était un problème. Est-ce que pour la bouffe de restaurant qu'on commande ou pour l'épicerie qu'on va acheter, il y a des mesures particulières à prendre?
Ben, l'épicerie, épicerie, c'est vraiment ce que les épiceries font déjà. Quand vous arrivez, on vous nettoie votre carte, on désinfecte tout, on s'assure que les gens soient pas trop nombreux dans les épiceries en même temps. Donc c'est un ensemble de choses. Peut-être ce qu'il faut faire attention, c'est que les gens, c'est surtout avec les légumes. Vous avez vu les fruits, même les distributeurs ont déjà mis des sacs plutôt que de mettre ça et vendre ça à l'unité, ce qui est une bonne idée. Ça empêche les gens de commencer à tout toucher, tout regarder, parce que bon, il peut toujours avoir la transmission par contact indirect. Hein. Si pratico-pratique, moi je suis malade, je tousse dans ma main, je tousse des oranges, et puis vous touchez les oranges 30 secondes plus tard et vous touchez votre nez, c'est pas impossible que vous attrapiez le microbe. Donc c'est un ensemble de facteurs. Oui, il faut nettoyer les fruits, les légumes. Comme je vous dis, il n'y a pas un facteur unique qui va tout modifier, c'est la somme de tous les petits facteurs qui va faire qu'en bout de ligne, on va diminuer notre risque.
Les plats préparés à l'extérieur qu'on fait livrer, quand ça arrive, là, la fameuse pizza, par exemple, comment on la manipule?
Ben écoutez, ce qu'on sait, c'est que c'est des pizzas, souvent c'est dans des boîtes de carton,
ouais.
Et on sait que le virus a tendance à beaucoup moins survivre sur du carton que de survivre, par exemple, sur de l'acier ou sur du plastique. Alors déjà, le carton n'est pas un milieu très favorable à la survie du virus. Ça ne veut pas dire qu'il ne survit pas. Écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de vous laver les mains fréquemment entre le moment où vous sortez votre pizza de la boîte, vous la mettez dans dans une autre assiette, vous vous débarrassez de la boîte, vous vous relavez les mains. Donc, vous essayez de casser le plus possible la chaîne de transmission. Et puis, évidemment, on essaie d'avoir le moins de contact possible avec les gens qui vont livrer. Mais aujourd'hui, avec tout le commerce électronique, vous n'avez pas forcément besoin d'être en contact avec les gens. Là, vous pouvez payer d'avance, vous faire livrer votre pizza, la prendre et puis ne pas avoir de contact avec personne. Donc, jusqu'à dans un certain point, tout comme le télétravail, la télémédecine, là, on est rendu au télérestaurant et c'est probablement ce que le coronavirus va nous apprendre. On va vivre dans une société où tout ce qui se fait à distance va pouvoir se faire plus facilement.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Dr. Carl Weiss est microbiologiste et spécialiste donc en maladies infectieuses.